Paix active pour la paix.
L'actualité de ce jour reste dominée par le crash de l'avion de la compagnie aérienne Ewabora, accident survenu hier après le décollage de l'avion à Biréré, quartier populaire de Goma. Un accident qui a fait des dizaines de morts, selon le gouverneur du Nord Kivu, que vous allez d'ailleurs entendre dans quelques minutes. Vous aurez également les explications du patron de Ewabora, M. Stavros, dans un instant. Mais pour le moment, nous vous invitons à suivre le point fait ce matin par Jungala, au micro de Nazan Koko.
Bon, ce mercredi matin, à la morgue de l'hôpital général de référence de Goma, par exemple, où nous sommes arrivés, nombreux sont les habitants de la ville qui passent, qui promènent les yeux sur la vingtaine de corps exposés à même le sol dans les deux chambres de la morgue. Ils se bouchent le nez pour ne pas inhaler l'odeur dégagée par les corps. Et à côté, quelques femmes pleurent sans hausser la voix, mais personne n'est en mesure d'identifier un seul proche ou un seul parent, les corps exposés étant calcinés et méconnaissables. Certains sont même en morceaux. Entre-temps, le lieu du crash reste ceinturé par des forces de sécurité qui empêchent tout accès aux personnes non autorisées, ce qui provoque de nombreux et longs détours de véhicules, motos et piétons ce matin, créant ainsi plusieurs embouteillages dans la circulation, notamment sur la route de l'aéroport. 5 corps sont exposés actuellement à la morgue de l'hôpital général de Goma. Hier, dans la soirée, 12 corps étaient déjà exposés à l'hôpital Île Africa de Goma, où les services sanitaires déclaraient avoir reçu 83 blessés avant la tombée de la nuit. À l'hôpital indien de la Monuc, on déclare un mort des suites des blessures et 18 personnes admises à l'hôpital, dont 5 ont pu être quand même libérées après avoir reçu des soins. Donc jusque-là, 33 corps ont été exposés à la morgue de ces trois institutions, mais ce n'est qu'un bilan provisoire en attendant le bilan officiel que les autorités devraient annoncer probablement dans les heures qui suivent. Il reste cependant difficile de savoir si la trentaine des corps exposés à la morgue de ces trois principales institutions sanitaires de la ville sont ceux des passagers qui étaient à bord de l'avion qui a fait crash ou tout simplement ceux des personnes fauchées au sol par l'avion qui a dérapé, comme vous le savez, sur 150 à 200 mètres au-delà de la piste avant de raser un pâté de dépôts de marchandises, des boutiques et quelques maisons d'habitation dans un quartier de Biréré bondé de monde à une heure de pointe au moment du crash. Au moins une centaine de blessés sont effectivement pris en charge par le personnel de ces trois principales institutions, et notamment par des médecins qui étaient en grève, mais qui, à l'appel de leur syndicat, le SINAMED, ont repris spontanément le travail pour des raisons humanitaires, ont déclaré certains que nous avons rencontrés. On ignore encore si c'est l'État congolais qui devrait en supporter le coût.
Alors, nous aurons dans un instant justement des invités dans cette émission. Nous aurons le gouverneur du Nord Kivu qui va nous rejoindre dans un instant. Nous avons déjà le patron de Ewabora, M. Stavros, en ligne. M. Ewabora, M. Stavros, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors aujourd'hui, la population congolaise s'interroge. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont en fait les causes de cet accident d'avion de Ewabora?
Écoutez, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes tous en train de vivre ce cauchemar, c'est un véritable cauchemar, un drame qui touche le pays. Bien entendu, nous, notre première inquiétude, c'est d'abord d'apporter assistance aux familles des victimes et de voir un peu qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir aider les blessés qui sont là-dedans, pour pouvoir leur apporter le plus de soins. Quand maintenant on cause l'accident, vous savez qu'il est beaucoup trop tôt pour pouvoir se prononcer. Tout ce que je peux dire, c'est que il avait plu, que la piste était mouillée et que le pilote avait essayé d'avorter le décollage suite à un bruit qu'il avait entendu vers l'arrière de l'avion. C'est tout ce que je peux dire. Bon, maintenant, comment est-ce qu'il a été déporté sur le côté, et tout ça. Ça, ce seront, disons, l'enquête qui va déterminer les causes et le reste.
Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'il y avait combien de passagers à bord de cet avion exactement?
Ok, il y avait 73 adultes, il y avait 4 enfants et un bébé. C'est ce que nous avions dans la liste, dans le manifeste avant le décollage.
Et aujourd'hui, il y a eu combien de rescapés? Vous avez une idée?
Écoutez, d'après les éléments que j'ai eus il y a une heure, on me parle de y a environ 106, il y a eu 106 blessés dans les hôpitaux, recensés dans les différents hôpitaux. Les blessés, ça part de la contusion jusqu'à la brûlure grave. Donc je n'ai pas de précision exactement pour pouvoir donner les différents degrés de gravité. Maintenant, dans les décès, on nous parle ce matin qu'il y a 23 décès recensés à la morgue. Il y a certaines informations, dont la vôtre, parler de 103. Encore une fois, il y a une confusion à ce niveau. Nous ne savons pas exactement ce qu'il en est. J'espère que dans les heures qui vont suivre, nous aurons un bilan un peu plus exact. Mais dans les 23, nous pouvons dire qu'il y a deux passagers qui semblent être confirmés. Encore une fois, avec beaucoup de réserves, il y a au moins deux passagers qui semblent être confirmés de ces 23 passagers.
Oui, M. Stavros.
C'est 23 des victimes, pardon.
Oui, M. Stavros, nous rappelons que vous êtes le patron des Arbora. Est-ce que cet appareil était assuré?
Bien sûr. Nous sommes, d'ailleurs, je viens de quitter le bureau pour vous parler. Je suis avec notre assureur. Et qui est tout à fait disposé à pouvoir prêter main forte et de pouvoir immédiatement couvrir, disons, ce qui était sa partie. Donc il n'y a pas de problème.
Donc on peut déjà conclure qu'il y aura, disons, la question sur l'indemnisation ne se posera pas.
Il n'y aura aucun problème de ce côté-là, croyez-moi. La SONAS a mis, je suis avec eux d'ailleurs sur le côté, et croyez-moi que nous avons toutes les raisons de croire que ça va se faire immédiatement. D'ailleurs, nous n'allons même pas attendre. Nous avons déjà transféré pour nous de l'argent à Goma pour pouvoir justement soutenir nos besoins les plus urgents, et cela en dehors même de ce que les assurances doivent indemniser, quoi. En dehors de cela, nous aussi, nous allons mettre la main à la poche immédiatement. Nous discuterons même pas.
Oui, les partenariats entre Bruxelles et Airline ne posera pas de problème. Semble-t-il qu'au niveau de la RTBF, on a déjà annoncé que le partenariat souffrira beaucoup par rapport à ce crash.
Écoutez, je ne sais pas ce que la RTBF dit. Je prends encore avec beaucoup de réserves. Vous savez, la RTBF n'a jamais été des amis ni du pays ni de notre compagnie. Donc je prends beaucoup de réserves sur ce que dit, parce que c'est pas la RTBF qui a dit, c'est un journaliste qui a dit. Et bon, je sais pas s'il a dit, d'ailleurs j'ai même pas entendu, c'est vous qui me le dites, mais encore une fois je pense que ça va être.
Alors pour l'instant, M. Stavros, est-ce que vous allez prendre en charge les victimes?
Bien sûr, nous allons aider, en tout cas, nous allons aider pour prendre en charge, bien entendu.
Et c'est déjà fait? C'est déjà fait?
Absolument. La première chose que nous avons demandé, c'est d'abord de pouvoir identifier les victimes, d'abord les passagers, et les autres victimes au sol. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup plus de victimes. Donc, si jamais on doit croire les chiffres que nous avons reçus sur les 23 victimes, il y aurait plus d'une vingtaine qui seraient des victimes au sol, donc ce ne seraient pas des passagers.
Mmh. Bon, mais comment
c'est un peu difficile, ce serait d'abord de les identifier.
C'est ça, mais pour l'instant, comment le Arbora s'est organisé pour la prise en charge des victimes?
Nous avons une cellule d'excise, nous avons mis donc à la disposition d'abord de toute la clientèle, nous avons mis deux numéros auxquels on pouvait joindre pour justement qu'on puisse non seulement centraliser les informations, mais qu'on puisse diriger aussi les passagers. Et bon, maintenant là-bas sur place, nous avons une cellule que nous avons tout de suite constituée, qui a d'abord pour rôle d'abord d'identifier les familles des victimes pour qu'on puisse les aider.
Oui, M. Stavros, selon nos sources, cet appareil faisait les trafics aériens entre Lubumbashi et Johannesburg, donc c'était pratiquement l'unique appareil. Qu'adviendra-t-il à Arbora aujourd'hui? Parce qu'on va maintenant manquer et il y aura un déficit de l'appareil.
Bon, je pense que là, vos informations ne sont pas exactes, ce n'était pas l'unique appareil. Ça, c'était l'appareil, c'était un DC-9, c'était l'unique DC-9 que nous avions pour faire la piste de Goma, parce que, disons, il était le mieux adapté pour faire cette piste-là. Mais nous avons des autres 727, nous avons trois autres 727 passagers qui exploitent actuellement le réseau domestique.
Oui, alors parlons de la santé, de votre service de maintenance, parce que semble-t-il que c'est le seul service qui pratiquement travaille dans ce secteur. On peut dire qu'il y avait des problèmes au niveau de votre service, parce que s'il y a un tel incident qui arrive, c'est que le plan des vols ne répondait pas à tous les critères.
Non, je pense que, sincèrement, je pense d'abord que ce n'est pas le moment idéal ni adéquat ni de parler de cela, mais est-ce que vous croyez sincèrement qu'un plan de vol devait être adéquat pour éviter un accident, sincèrement?
Mais là,
le plan de vol, ça n'a rien à voir avec ça. Disons que le plan de vol, c'est uniquement pour donner des informations quand nous allons décoller, à quel moment nous allons arriver, etc. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu, un incident technique apparemment. Encore une fois, avec beaucoup de réserves, nous allons devoir attendre les conclusions de l'enquête. Hein. Je pense que ne nous avançons pas trop. Je sais très bien que nous sommes toujours poussés. Tout le monde veut connaître les résultats, veut connaître la fin. Je suis le premier à vouloir les
connaître. Que vous dites,
par expérience, avec ma petite expérience, croyez-moi qu'il faut attendre là-dedans. Il y a beaucoup de choses et croyez-moi encore une fois, je vous dis, aucune piste n'est écartée.
Oui, mais est-ce que cet appareil avait un entretien quotidien? Parce qu'il y a quand même des interrogations. Comment est-ce qu'on peut en arriver là aujourd'hui au niveau de l'Aurora?
Et surtout que ce n'est pas un Antonov, c'est un DC-9.
Yes. Ok. Est-ce que, bien sûr qu'il y a un entretien. Nous avons un entretien, nous avons même ouvert nos portes à tous vos collègues, etc., les télévisions qui viennent filmer régulièrement chez nous. Bien sûr qu'il y avait un entretien. Bien sûr que ça suivait. L'avion était parti d'ici, il est allé jusque Kisangani Goma. Bon, il n'y a eu aucun symptôme, il n'y a eu aucun, comme on appelle, snag, donc aucun incident qui a été reporté dans le carnet par les pilotes eux-mêmes. Donc il n'y avait rien qui pouvait présager un problème quelconque.
C'est pour ça que
je vous dis, bon, il n'y a aucune piste qui devra être écartée.
Alors pour terminer, M. Stavros, les familles des disparus, des victimes, se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour savoir s'il y a encore un membre de la famille vivant. Vous avez dit qu'il y a une cellule aujourd'hui qui a été constituée. Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone que vous pouvez communiquer?
Oui, nous avons le premier numéro de téléphone d'ailleurs qui est le 0817. 005000 et le deuxième c'est le 0997 005000. Donc ce sont les deux numéros que nous avons mis à disposition de notre clientèle et nous attendons dès que nous allons avoir la liste des victimes, nous allons les publier sur le site internet pour qu'on puisse suivre. Mais encore une fois, notre grand problème que nous avons, c'est de pouvoir identifier les familles des victimes et pour pouvoir ainsi commencer déjà leur indemnisation et en tout cas les aider, déjà les soulager à pouvoir traverser cette épreuve qui est une épreuve que personne n'en vit.
Merci beaucoup M. Stavros. Nous rappelons que vous êtes le patron des Wabora. À la prochaine.
Merci, au revoir.
Voilà, nous avons également promis d'avoir en ligne le numéro 1 du Nord Kivu, le gouverneur du Nord Kivu, qui est avec nous, qui nous a rejoint, M. Julien Paluku. M. Julien Paluku, bonjour.
Bonjour.
Alors, avec vous, on va plutôt parler des dispositions que vous avez eu à prendre en rapport avec cet accident, ce crash d'avion de Ewabora sur place. Quelles ont été les dispositions que vous avez eu à prendre?
Oui, d'abord nous avons organisé les secours d'urgence. Tous les médecins qui étaient en grève ici à Goma ont dû rejoindre les hôpitaux aussitôt que le crash a eu lieu. C'est ainsi qu'au niveau de l'hôpital général, on a compté des dizaines de blessés qui sont arrivés à l'hôpital Docs qu'on appelle communément Île Africa. Que donc la prise en charge a été presque totale, mais également nous avons réunir la cellule technique au niveau des humanitaires qui ont donné les premiers appuis en médicaments. Et maintenant, à l'heure où je vous parle, tu dois recevoir une autre équipe de médicaments de l'UNFPA et de l'OMS qui doivent nous aider dans des médicaments qui soignent les traumatismes. Et voilà autant de dispositions que nous avons prises, mais également sur les lieux du crash, nous avons déployé un dispositif sécuritaire pour que les badauds ne puissent pas s'adonner au pillage et pas. Il y en a un moment comme celui-ci pour commencer à piller les biens. Vous savez que là où l'avion a fini sa course, c'était dans un quartier populaire de Piré où on vend des vivres. Comme vous le savez, l'avion est tombé sur des maisons. Il y a un avec 9 appartements, une autre avec 8 appartements, un grand dépôt. Alors, on a dû sécuriser les milieux, mais également permettre à ce qu'on puisse retrouver les éléments nécessaires qui nous permettront de mener l'enquête.
Alors,
voilà, c'est là où nous nous retrouvons.
Oui. Vous vous occupez également de la prise en charge des blessés internés dans les hôpitaux?
Oui, oui, tout à fait. Nous avons eu les premiers besoins des médecins de l'hôpital d'Ox, l'hôpital général. Nous essayons un peu de donner les premiers secours, de satisfaire aux premiers besoins qui se posent, en attendant évidemment que nous puissions bénéficier de l'appui du gouvernement, parce que le gouvernement a promis aussi envoyer sa délégation cet après-midi, et que donc nous pensons que, en même temps que nous sommes en train de prendre en charge cette question de façon provisoire, le gouvernement va nous appuyer et nous permettre à ce que nous puissions élever notre niveau de prise en charge.
Oui, on parle déjà de l'appui financier. Bon, c'est vrai que c'est un peu trop tôt d'évaluer cela, mais on peut le dire. C'est approximativement combien ont besoin financier aujourd'hui pour arriver à assister ces victimes du crash?
Non, c'est trop tôt comme vous le dites. Parce que
mais approximativement.
Aujourd'hui, 111 blessés, 33 morts que nous avons recensés nous-mêmes. Et nous estimons que par rapport à ce nombre, il faudra envisager ce qu'il faudra faire à chacun des cas.
Mais déjà, vous avez eu à débourser énormément de moyens. Ça vous a demandé combien
oui,
à peu près?
C'est une obligation comme responsable de l'État au niveau d'ici. C'est une obligation que nous devons faire en attendant, évidemment, que des formalités soient données.
Oui, monsieur le gouverneur, disons, d'aucuns aimeraient un peu savoir, parce qu'encore ce que vous dites, c'est comme si, voilà, donc, la communication est coupée.
Mais, dommage. On va essayer de faire le suivi, hein, puisque de toutes les façons, toute la journée d'aujourd'hui, et je crois que dans les éditions de Radio Capi, on en parlera. On aura certainement à faire le point à nouveau avec le gouverneur du Nord Kivu, monsieur Julien Paloco. Donc, continuez à rester des nôtres. Nous allons évoluer, hein, parce qu'on a plusieurs questions à évoquer dans cette émission. Vous pouvez nous appeler aussi pour témoigner et poser vos questions toujours au 081 890 63 94.
My love, there's only you in my life, the only